Présenter ce livre que j'ai publié donc en septembre 2023 aux éditions Textuelles, Précarité Générale, témoignage d'un rescapé de l'université. Juste un mot sur la genèse de ce projet, qui n'en était pas un à l'origine du tout. J'ai soutenu ma thèse en décembre 2016 en sociologie. J'ai été recruté au CNRS comme chargé de recherche à l'été 2020. Et donc, dans ce laps de temps entre la soutenance et le recrutement, je vous apprends rien, c'est une période qui est dure, que personnellement, moi, j'ai trouvé plus dure que l'aboutissement de la thèse et la soutenance. Et pendant ces années-là, j'avais mûri en moi l'idée de. En fait, je consignais les difficultés quotidiennes du métier, les humiliations, toutes les micro-formes de violence. Et j'avais mûri donc l'idée d'écrire un témoignage sous la forme d'un courriel. Et j'avais ce titre de témoignage de rescapé. Et donc j'ai été recruté à l'été 2020, je l'ai dit. Et j'ai mis ce projet à exécution. J'ai envoyé le message en janvier 2021 sur les listes professionnelles de la sociologie de la science politique. Donc c'était un message assez long, un peu argumenté, enfin, comme le livre. J'ai eu beaucoup de retours à ce message. Et je pense même que dans la profession en sociologie en France, je suis peut-être plus connu pour ce message-là que pour mes propres travaux de recherche. Et à la suite de ça, donc les directeurs de la collection Petite Encyclopédie Critique chez Textuel, donc Manuel Cervera-Marsal et Sébastien Chauvin, qui avaient lu le message, m'ont contacté pour savoir si je voulais augmenter le témoignage pour en faire un livre. Au début, j'ai dit non, parce que c'était pas pour ça que j'avais écrit ce témoignage. C'était surtout un cri du cœur. Finalement, je me suis laissé convaincre. Voilà. Donc, ça mange un peu le haut, bon, tant pis. Voilà, ce témoignage, c'est un témoignage en nom propre, hein, c'est un exercice qui est habituel en sociologie, notamment au moment de l'HDR, un exercice d'égo-histoire, de réflexivité aussi. Donc, ce n'est pas une enquête au sens propre, hein, comme ce que Joël a fait avec Christian Topalov, donc enquête avec une dimension sectorielle, puisque je parle de ce que j'ai vécu dans le métier, donc sur l'enseignement supérieur et la recherche, je vais dire OSR hein, pour aller vite, mince, j'ai oublié de démarrer mon chrono, pardon. Enquête donc au-delà de l'effet sectoriel sur la précarisation du travail elle-même, et donc sur ce que peut nous dire l'ESR sur la situation générale en France. Alors par ailleurs, je l'ai dit, donc comme c'est un témoignage fondé sur mon vécu et mon expérience, mais le but, et c'est ce que je disais déjà dans le mail que j'avais envoyé sur les listes professionnelles, c'est pas de faire ni de l'impressionnisme, ni de tomber dans des formes d'ego trip. Et donc, comme je n'étais pas un spécialiste, pardon, des politiques de réforme de l'enseignement supérieur ou de la précarité, ben, j'ai lu ce que on fait de moins en moins dans nos métiers. Mais ça sert aussi de se déspécialiser et d'aller voir ce qu'écrivent les collègues. Et donc c'est aussi cette matière, outre mon vécu et mon expérience, qui nourrissent le livre. Dernier élément pour présenter l'angle de l'ouvrage, c'est un ouvrage qui prend le contre-pied de ce qui est devenu presque un filon littéraire, hein, qui est le témoignage de transfuges de classe. Alors pensez à des écrivains comme Édouard Louis, Didier Ribon. En sociologie, on a aussi eu les témoignages de Rosemarie Lagrave. Alors, dans la même version, mais avec la dimension de racisation en plus, pensez aux écrits de Kaou Tarachi ou de Nesrine Slaoui. Et j'ai vu récemment aussi que le journaliste de Libération, Adrien Nazelli, enfin, il vient de publier un livre sur. Cette question-là, qu'est-ce que fait, je crois que ça s'appelle, qu'est-ce que fait, ils font quoi tes parents sur les transfuges de classe. Donc moi, c'est l'inverse parce que dans mon livre, puisque je prends la parole, je m'objective et j'explique que je viens donc des classes supérieures, que par ailleurs j'ai eu un parcours scolaire et académique qui me situait dans le haut, on va dire, de l'espace académique et de l'enseignement supérieur. Et donc c'est une manière de dire que je ne me préparais pas ou je ne pensais pas que je rencontrerais la précarité dans mon parcours et dans ce qui va m'amener au CNRS qui est, là aussi j'en ai conscience et je le dis, une sortie par le haut de la précarité. Je vais revenir sur ces aspects un peu plus loin. Donc, quelques éléments. D'abord, je vous l'ai dit, bon, j'essaie de, au fur et à mesure du livre, d'objectiver mon propos pour ne pas parler dans le vide. Je vous ai dit que moi, j'avais soutenu ma thèse, alors je suis un peu plus âgé, parce que j'ai, bon, quand je vous ai dit que j'ai eu parcours, on va dire, on appellerait ça un parcours académique d'excellence, parce que j'ai fait l'ENS, Sciences Po, passé un an à l'étranger à Cambridge, donc voilà, ça vous situe. Ce qui fait que j'étais un peu plus âgé que la moyenne quand j'ai soutenu ma thèse, mais il m'a fallu 3 ans et demi pour trouver un poste, ce qui est dans les tendances actuelles, hein, puisque c'est les chiffres que je vous ai mis là. En France, en général, on soutient sa thèse à 31 ans, toutes disciplines confondues, et on est recruté à 34-35 ans selon qu'on regarde les ONR, donc les organismes dont Joël a parlé, le CNRS, l'INRAE, l'INRIA, l'IFREMER, et ainsi de suite, et 35 à l'université. Alors par ailleurs, en France, je ne vous apprends rien, surtout si vous travaillez à l'université. Les universités fonctionnent en partie grâce au soutien des vacataires, qui représentent donc, selon les chiffres qui sont notamment fournis par les syndicats de jeunes chercheurs, qui représentent 64% du personnel enseignant, et c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Et d'autre part, alors le dernier chiffre que j'ai mis dans la diapositive, celui-là, il a été conçu. Ce ne pas des chiffres qui sont des indicateurs qui sont faciles à construire. C'est celui de l'Association nationale des candidats au métier de la science politique, en collaboration avec la Confédération des jeunes chercheurs. Donc, voici le nombre de postes de maître de conf qui sont actuellement remplacés par le recours à la vacation.
Toutes disciplines confondues.
Oui. Oh, oui. Alors, justement, la vacation, j'y viens, parce que j'explique dans le livre que la précarisation de l'ESR, elle fonctionne sur deux piliers. Dans la recherche sur projet, dont a parlé Joël, et à l'université, la vacation. Je pense que ces deux éléments peuvent être regardés en miroir. Alors, la vacation, c'est deux statuts, les chargés d'enseignement vacataire, essentiellement pour les professionnels, les avocats, les avoués, les notaires, aussi en médecine. Donc, qui eux doivent avoir une activité principale parallèlement, et les ATV, les agents temporaires vacataires, qui sont essentiellement doctorants et des doctorantes. Et quand vous regardez le décret de 1987, ces statuts sont des statuts d'appoint. Hein. Donc, ça veut dire qu'une université n'est pas censée fonctionner avec plus de, enfin, avec le chiffre que j'ai donné là, sur le pourcentage de vacataires. Au niveau de la licence, alors ça, c'est à ventiler en fonction des établissements, mais on sait qu'il y a notamment au niveau L, c'est plus de la moitié, parfois donc on monte à 70% des intervenants qui sont des personnels non titulaires. Et d'autre part, vous savez que par analogie, un peu comme donc quand on regarde à partir de quel moment de l'année les femmes travaillent gratuitement du fait de l'écart salarial, ou à partir de quel moment de l'année on estime avoir consommé toutes les ressources naturelles, ben, si on faisait la même chose avec les universités, si on imaginait un monde idéal de l'université où il n'y ait que des fonctionnaires, eh bien en fait il n'y aurait qu'un semestre par an sur les deux, ou en tout cas les universités pourraient ne fonctionner que 6 mois par an. Dernier élément dans ce qu'on peut considérer quand même comme une espèce de scandale social, parce que ça en dit long, enfin, comment est-ce qu'un pays traite ses universités et la diplomation de sa jeunesse. Alors là aussi, hein, c'est dérivé du décret de 87. On sait qu'une heure de cours ne représente pas une heure de travail. Hein, c'est chiffré à un peu plus de 4 heures de travail effectif. Et donc, si on fait le calcul, ça veut dire que les gens qui font des vacations à l'université sont payés moins que le taux horaire du SMIC. Bon, évidemment, avec des mois de retard. Et c'est vraiment des mois de retard, c'est même parfois des années de retard. Les universités se retranchent derrière l'impossibilité pour elles de caler ça sur leur logiciel, alors qu'il y a quand même des universités qui y arrivent. Et sachant que réglementairement, c'est illégal. Alors j'en viens à la question de... la dimension transdisciplinaire de la précarité. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que, dans une vision un peu rapide, superficielle, on a tendance à considérer que la précarité à l'université ne toucherait que les sciences humaines et sociales. Et je pense que c'est une vision à laquelle il faut tordre le cou. Et c'est ça que je vais expliquer à présent. Alors, pour ce qui est du pourcentage de doctorats qui sont financés en France, là aussi les chiffres ne sont pas nécessairement évidents à établir parce que de plus en plus, donc le ministère, via la direction de l'insertion professionnelle, donne des chiffres qui ne sont pas disciplinarisés. Hein, donc c'est un peu à nous de faire le calcul. Donc actuellement, on est à... Alors on a augmenté, le nombre de doctorats soutenus chaque année en France baisse. Hein. En 2010, la stratégie nationale de recherche devait nous porter à 20 000 doctorats, et aujourd'hui, on oscille entre 14 000 et 15 000 doctorats par an. Mais en revanche, le nombre, la part de doctorats financés, elle, a augmenté, de l'ordre de 80%. Alors j'ai écrit en sciences humaines et sociales, presque la moitié des thésards commencent leur doctorat sans financement. Bon, j'aurais presque pu écrire la phrase avec des guillemets, parce que sur ce point-là, j'ai trouvé des chiffres contradictoires, et donc je suis en train de voir avec Julien Gossa, que vous connaissez peut-être, de l'Université de Strasbourg, qui travaille sur les données ouvertes de la recherche, pour essayer de croiser ça avec d'autres sources et aboutir à un chiffre mieux établi. Alors je vous le disais, la précarité est loin de concerner uniquement les SHS. Tout à l'heure, Joël a rappelé que parmi les collègues qui étaient mobilisés dans le mouvement Sauvons la recherche, il y avait un certain nombre de biologistes. Figurez-vous que le premier département, les premiers collègues qui m'ont invité à présenter mon livre, c'était le département géosciences de l'ENS. Là aussi, donc, je vous ai fait figurer quelques chiffres qui commencent à dater un petit peu, mais qui sont néanmoins éloquents. Donc des chiffres sur la chimie. En sciences du vivant, on a uniquement 53% des docteurs et doctoresses qui occupent un emploi stable 3 ans après l'obtention de leur doctorat. Là aussi, selon le ministère. Et dans une discipline comme la biologie, le tarissement des postes fait que le temps de précarité, hein, tout ce dont j'ai parlé au début, le temps... le sas en fait d'attente d'un poste pérenne entre la soutenance et le recrutement, lui aussi tend à s'allonger. Et évidemment, donc, cet allongement du temps d'attente transforme les individus et a un effet sur, on pourrait dire, leur subjectivité ou leur manière de ressentir et de concevoir le travail. Alors, d'autre part, la précarité, je m'éloigne un peu là de la partie objectivation chiffrée. Là, comme je viens de le dire, la précarité, elle a aussi des effets sur les individus et elle est donc ce que j'appelle une expérience chronique de subalternisation. On peut aussi considérer que la précarité, c'est un peu comme un cancer qui a des métastases et qui viennent se répandre à la fois, enfin presque, y compris au titulaire. Dans la diapositive précédente, j'ai cité Christophe Granger, qui a écrit en 2015 donc un livre stimulant qui fait réfléchir à la destruction de l'université française. Et la thèse générale de Christophe Granger, c'est que ce n'est pas que les précaires seront un jour titulaires, c'est que les titulaires seront un jour des précaires. Ce qui ne veut pas dire que les agents de la fonction publique vont être défonctionnarisés, quoique... Au train où on vend les choses, on n'est plus sûr de rien. Mais qu'aujourd'hui, quand vous êtes titulaire, et je pense que ça vous parlera, quand par exemple vous êtes maître ou maîtresse de conférence ou professeur d'université, que vous devez remonter chaque année une équipe de vacataires, vous savez que le temps que vous y perdez, ça vaut aussi pour le personnel d'appui à la recherche. Quand vous avez de la recherche sur projet, souvent vous employez des contractuels. Donc les contractuels, il faut les former. Et quand la personne part, et bien, il faut reformer une autre personne, et ainsi de suite. Donc, mine de rien, la précarité nous fait aussi perdre du temps dans nos tâches. Alors, la précarité, elle crée aussi une main-d'œuvre flexible et docile. Il vaut mieux avoir, dans l'idéal, si on est un manager de la recherche, néolibéral, optimisateur, et qui fait dans le capitalisme de la science, il vaut mieux avoir des chercheurs contractuels, hein, qui sont fortement intéressés à la publication pour le renouvellement de leur contrat et la poursuite de leur carrière, que des chercheurs fonctionnaires qui sont libres de définir l'agenda de leur recherche. Et donc ça crée un chantage au poste, je vais y revenir dans les termes de la sociologie du travail, et donc ça aboutit, ça a pour conséquence que les agents sont prêts à accepter beaucoup. En tout cas des choses qui seraient considérées comme inacceptables dans d'autres sphères professionnelles. Dans la troisième partie du livre, alors ça je l'ai pris dans, c'est un témoignage du livre d'Abel Combes, qui est là aussi, qui elle est neurobiologiste, et c'est elle qui a écrit le témoignage « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Alors je ne l'ai pas mentionné, je fais juste une parenthèse, mais je ne sais pas si vous avez vu en début d'année, Thomas Porcher, l'économiste, a aussi publié un livre de témoignage sur la précarité, où lui il explique que quand il était économiste, pour payer ses loyers, son loyer et manger, il donnait des cours dans trois établissements différents. Et ce qui m'a frappé, c'est que ses journées étaient tellement étirées que quand il faisait un TD de 1h30 à Tolbiac, en gros, il a, à cause des transports en commun, son emploi du temps, il arrivait souvent avec 20 bonnes minutes de retard, ce qui fait que le TD ne durait plus qu'une heure. J'ai oublié le titre, je crois que c'est « Profession précaire » ou
«
Le vacataire », merci. Le vacataire. Donc, je vous disais, la précarité, c'est comme un cancer avec ses métastases, et donc ça si j'en prends le vocabulaire des économistes, des externalités négatives. Alors, la souffrance au travail, je pense qu'on est bien placé pour savoir que l'ESR, comme d'autres services publics, peut-être comme la plupart des services publics, va mal, et que ça se ressent par la souffrance au travail des agents, aussi bien chez les chercheurs et les chercheuses que chez le personnel d'appui et d'accompagnement, donc les burn-out. Le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel. La domination, alors la domination d'âge, je trouve que c'est un élément important, j'en dis juste deux mots. La domination d'âge, c'est l'idée que, puisqu'il y a un entonnoir pour entrer à l'université, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait environ 15 000 doctorats qui étaient soutenus en France chaque année, et chaque année, les universités et les ONR recrutent environ 2000 personnes. Donc ça représente un peu moins de 15% des individus qui ont soutenu une thèse, qui vont pouvoir entrer à l'université ou devenir chercheur. C'est pour ça que je parle d'entonnoir. En gros, c'est un effet un peu malthusien. Donc la domination d'âge, c'est les gens qui sont en position de vous recruter sont eux-mêmes titulaires, et en général, ils sont passés par là, ils sont passés par ce couperet. Et c'est cette idée que, en gros, ça a été dur pour moi, donc c'est normal que ce soit dur pour les autres, parce qu'on s'accoutume, voire on se retrouve mitridatisé, enfin complètement, on en oublie en fait le fait que ces choses-là ne devraient pas avoir lieu. Et donc c'est ça la domination d'âge. D'autre part, donc l'immense dossier des VSS, et de tout ce que ça crée, là aussi lié au chantage au poste et à ce qui peut aller avec. Alors, le chantage au poste, je vous l'ai dit, si on retraduit ça dans le vocabulaire de la sociologie du travail, alors, j'ai mis ici quelques expressions pour accompagner mon propos. Je trouve que dans les différentes expressions qui ont été forgées, celle qui me paraît la plus significative, c'est la notion de « hope labor ». Donc, on retrouve dans le livre de Maud Simonet, j'ai mis mes références à la fin. Donc, « Travail gratuit, la nouvelle exploitation », qui avait été publiée dans la même édition chez Textuel. Donc, je pense que vous avez compris, l'idée de hope labor, c'est l'idée que, voilà, on accepte des choses qui sont à peu près inacceptables parce que derrière, il y a la carotte de la titularisation ou la carotte de l'emploi stable. Ça vaut pour notre secteur, mais ça vaut aussi pour d'autres branches professionnelles. Je vais y revenir juste après. Et donc, on peut se poser la question, légitimement, que devient cet espoir de la titularisation lorsque la perspective de l'emploi stable se consume à petit feu et que la titularisation n'apparaît plus que comme une lointaine chimère. Je pense que c'est une véritable question à poser, et c'est aussi là que... excusez-moi, je reformule ce que j'allais dire, mais un élément qui est intéressant à observer, que moi je n'ai pas fait, c'est l'attrition, c'est-à-dire l'exit, quoi, les gens qui quittent aussi l'ESR, soit au cours de la thèse, soit après avoir obtenu leur doctorat. Et par ailleurs, je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand je vous donnais les chiffres globaux du doctorat versus le nombre de recrutements à l'université, ça pose évidemment la question de la reconnaissance du doctorat à l'extérieur de l'université, dans les administrations et les entreprises, un sujet qui est vraiment problématique en France. Alors, je vous ai dit au début que je ne viens pas d'un milieu où on connaît la précarité. Donc, je viens d'un milieu déjà très diplômé et d'un milieu qui vous prépare à l'idée que vous allez faire des études longues et que vous ne connaîtrez pas la précarité. Mais on n'est pas un paradoxe près. Puis par ailleurs, je pense aussi qu'il faut que nous mettions à jour notre compréhension de la précarité. Alors, à ce sujet, nous, quand on est dans l'ESR, et aussi comme je pense que du fait de nos accointances, de notre réseau aussi de connaissances, on fréquente des gens qui connaissent aussi ce type de précarité dans le secteur de la culture, notamment du journalisme. On a tendance à considérer que la précarité est endémique. Et ce n'est pas complètement faussé, mais quand on regarde les travaux solides de sociologie du travail, là je cite la thèse de Marion Plot, hein, qui est une approche cohortale de l'emploi en France dans les années 70, 80, 90, et qui regarde donc les différences entre générations et qui nous explique que aujourd'hui, certes, il y a plus de précarité au sens du mode d'entrée dans l'établissement employeur, au sens presque du premier contrat. Marion Plot met aussi l'accent sur le fait qu'on a tendance à considérer les Trente Glorieuses comme une espèce d'âge d'or, en passant sous silence le fait que même sous les Trente Glorieuses, il y avait de la précarité, mais que cette précarité reposait beaucoup sur les femmes et l'emploi discontinu. Donc, le CDI, hein, si on considère que la précarité, enfin, l'inverse de la précarité, ce serait le CDI, ce qui serait sûrement à moduler. Le CDI reste la norme d'emploi en France. Et d'autre part aussi, gardons toujours en tête, je vais parler dans quelques instants de l'effet secteur, mais si vous parlez avec des gens qui ont fait des filières courtes dans l'enseignement supérieur comme les BTS, c'est des gens qui connaissent l'emploi stable beaucoup plus tôt que nous, hein, où la titularisation intervient, je l'ai dit, hein, aux alentours, au milieu de la trentaine. Alors, je vous l'ai dit, est-ce que le CDI, ça suffit à mesurer la précarité d'une situation de travail? On peut aussi considérer, on peut aussi aller au-delà et déterminer que la précarité, c'est aussi une précarité existentielle. Et là aussi, je pense qu'on en sait quelque chose dans nos métiers. Julien Gossat, que j'ai cité tout à l'heure, m'avait dit une fois dans une discussion informelle que la recherche sur projet, c'est de la précarité, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire cette idée que, vous avez votre salaire qui tombe à la fin du mois, ok, ça vous êtes payé pour vos dépenses courantes, mais si vous voulez de l'argent pour faire votre recherche, il faut aller devant un guichet et démontrer que vous le méritez. Je pense que c'est ça qu'il y a derrière le propos de Julien Gossat. Et enfin, donc ça c'est ce qui explicite le titre que j'ai donné à cette diapositive. En fait, on se rend compte que la précarité dont je parle, donc qui n'est pas la précarité, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle de Ian Levinson, je ne sais plus comment, aussi j'ai oublié le titre, mais c'est Une journée dans la vie d'un précaire, donc lui c'est un États-Unien et il enchaîne tout type d'emploi, il vend du poisson, il pose des câbles, après il va travailler sur un navire de la marine marchande, et bon, comme c'est quelqu'un qui a le sang chaud en plus, puis qui n'hésite pas à remettre les gens en place, il se fait licencier. Donc ça, c'est un peu la vision en général qu'on a du précaire, ou alors, pour prendre des exemples plus proches de chez nous, quand on dit précarité, on pense au secteur, par exemple, du gardiennage, de la sécurité privée, de l'hôtellerie et restauration, et ainsi de suite. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit peut-être aussi qu'avec les mutations et le nouveau visage du capitalisme, peut-être qu'il faut qu'on se décide à mettre à jour notre compréhension de la précarité. Et la précarité donc, dont je parle, la précarité qui est diplômée, pose une question qui est que, si le sas d'attente pour avoir un poste pérenne, il est de plus en plus long, et donc il faut pouvoir attendre en fait la titularisation. Le risque, c'est que ça favorise les classes supérieures, les classes qui sont déjà bien dotées, soit parce que donc, vous avez une famille derrière qui vous permet d'affronter la précarité, soit parce que vous avez un conjoint ou une conjointe qui a un emploi plus pérenne et mieux rémunéré. Donc d'où le titre, hein, « La précarité pour les riches », avec un point d'interrogation. Alors essayons de raisonner au-delà de l'effet secteur, et c'est ma dernière diapositive. Donc si on monte en généralité, j'ai déjà mentionné le terme « les mutations du capitalisme » et on peut poser que le capitalisme aujourd'hui il est polarisé entre des secteurs lucratifs et des secteurs non lucratifs comme la culture, l'information, le savoir, dans lesquels viennent se placer l'enseignement supérieur et la recherche, avec des modèles économiques incertains, hein, qui reposent en grande partie sur la dépense publique, même s'il y a aussi un financement privé de la recherche. Sauf que, une manière aussi d'aller au-delà de cette polarisation, alors là je cite le travail d'une collègue anthropologue, Julia Mancy-Thierry, le livre s'appelle « Le plus beau métier du monde », donc c'est une enquête sur la précarité dans le secteur de la mode, et Mancy-Thierry dit donc que même dans la mode, hein, qui est un secteur qui se porte bien financièrement, la précarité est également extrêmement bien établie. Alors, donc la conclusion de tout cela, c'est que, certes, il faut raisonner au sein de l'effet secteur, mais il faut aussi, il ne faut pas hésiter à aller au-delà. Et la précarité, donc, peut être vue comme, non pas un accident, mais comme un système, donc comme un mode de gestion de la main-d'œuvre. Et pour le dire à la Foucault, on pourrait dire une forme de gouvernementalité néolibérale. Alors, quelques perspectives pour conclure. Tout d'abord, une revendication réformiste au sens, j'ai mis entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, le mot réformiste, réformateur, il est galvaudé, mais disons, une revendication authentiquement réformiste, une réforme pour le mieux, ce serait de rééquilibrer la répartition des financements entre appel à projet et crédit récurrent des laboratoires. Joël a aussi abordé la question. Ce qu'on voit, c'est que de l'argent, en fait, il y en a. Alors, non pas dans les caisses du patronat, comme dit le slogan, mais quand vous regardez l'argent qui est distribué par l'ERC à l'échelle européenne, l'argent qui est distribué par l'ANR en France, l'argent qui est distribué par les collectivités territoriales qui financent aussi la recherche, les associations, les organismes comme la Ligue contre le cancer et ainsi de suite, même les universités, même le CNRS dispensent des appels à projets, donc de l'argent il y en a. Le problème c'est vraiment celui du rééquilibrage entre les deux quand on voit que les laboratoires sont vidés de leurs crédits récurrents, avec évidemment l'intérêt que ça a pour les réformateurs. Alors cette revendication, elle est apparue notamment au moment de la contestation de la LPR. Il y avait aussi augmenté le taux de succès à l'ANR, mais je me souviens avoir lu un message critique de Christian Topalov là-dessus. Alors d'autre part, bon, je pense que là, vous qui m'écoutez, vous êtes plutôt acquis et acquise à cette idée, mais néanmoins je le rappelle parce que là aussi, à l'heure actuelle, on n'est plus sûr de rien. Et j'ai écrit ça aussi parce que au moment où j'écrivais le livre, et un peu après, je ne sais pas si vous vous souvenez, Stanislas Guérini, qui était ministre de la fonction publique, avait dans les cartons un énième projet de réforme de la fonction publique. Et contre cela, je pense qu'il faut affirmer haut et fort que le statut de la fonction publique est pour nous chercheurs et chercheuses, enseignants-chercheurs et chercheuses, un outil éminemment émancipateur qui favorise l'autonomie du champ scientifique dont on sait à quel point elle est vitale et aujourd'hui contestée. Et dernier élément pour dire, ça c'est aussi, de toute façon je pense que la tonalité générale de ce que je dis n'incite pas forcément à l'optimisme, mais je voulais dire, pour commenter ce dernier élément, que personnellement j'ai perdu tout espoir de mobilisation de la profession, pour toute une série de raisons, et donc je pense qu'on ne pourra pas sortir du constat qui se trouve dans mon livre « Précarité générale » sans une mobilisation intersectorielle qui, donc, comme le disait le collectif ACID, déciderait de lutter contre l'emprise du capital sur l'éducation et plus largement sur l'ensemble de la société. Voilà mes références, si ça vous intéresse. J'espère ne pas avoir dépassé les 30 minutes et je vous remercie pour votre attention.